Bonjour à tous et bienvenue pour l'épisode 13 de la saison 6 d'Autour du Feu, consacré toujours à Koh-Lanta, le totem maudit. Bah, sans plus attendre, je vous présente les gens qui seront avec moi ce soir. Donc il y a Emma, salut Emma.
Salut Damien, salut tout le monde.
Je présente Abraxas.
Salut Emma, salut Damien, salut Noshi, ravi de vous retrouver.
Et salut Noshi.
Salut tout le monde.
Alors avant de commencer, bon encore, le joueur ou la joueuse de l'épisode ?
Moi je vais le dire, ça se partage entre deux, mais je pense qu'il y en a d'autres qui citeront l'autre, donc je vais dire JC.
Tu me prends un peu de cours, parce que c'était un épisode assez équilibré, donc j'ai pas vu quelqu'un qui s'en détachait, mais je vais dire Olga.
Moi je vais suivre Abra et on va dire JC, JC également, ouais.
Très bien, bah écoutez, on va commencer tout de suite parce que c'était un épisode qui était coupé, donc il n'y a pas eu d'épreuve d'immunité, mais pour un épisode qui n'est pas complet, c'était plutôt un bon épisode, donc du coup on va commencer tout de suite puisqu'on a l'arrivée du dernier éliminé, enfin des derniers éliminés, donc Luana et Maxime dans la maison du jury, et... C'est une énorme surprise pour les jurys ici présents, et du coup, on voit un petit peu le... On a vu les prémices lors du précédent épisode, c'est-à-dire que la stratégie des Verts commence à être révélée. Au départ, c'était avec Nicolas, et là, le fait que, du coup, ils ont décidé de sacrifier Luana. Et ça, justement, je voulais vous poser la question, je vais demander à Emma, est-ce que ça veut dire que pour les Verts, ça va être ensuite très très compliqué, s'ils se retrouvent au conseil final, de convaincre le jury? Parce qu'ils ont l'air de pas être trop contents de cette stratégie-là des anciens Verts, ils s'y attendaient pas du tout.
Bah en fait, ouais, le risque d'éliminer Luana, même si ok elle est dangereuse et ok elle les a peut-être un peu saoulés sur la fin. En fait, c'est que bah déjà elle révèle toute leur stratégie, ce qui s'est passé, et qu'ensuite eux ils se retrouvent en minorité en fait avec les nombres pour voter, et on commence à le voir un peu pointer le bout de son nez, que ils soient plus en majorité, donc les autres puissent se révolter. Donc c'est vrai que a posteriori j'ai du mal un peu à comprendre leur stratégie. Je comprends l'élimination de Maxime, etc., mais même si humainement Fouzi et Géraldine étaient peut-être plus intéressants pour eux, du point de vue du jeu, c'est vrai que ça paraît étrange, leur stratégie d'éliminer Luana. Parce que je pense vraiment que ça pourra leur porter préjudice. Après, pour nous, c'est super parce que du coup, ça agite un peu le jeu. On voit d'autres dynamiques que celles juste d'une équipe et d'une alliance de départ qui peut écraser tout le monde. Et donc, c'est super pour le jeu. Mais pour eux et pour leur stratégie, un peu étonné. Ouais.
Ouais, donc, je vais demander aussi à Noshi. Parce que donc Emma un petit peu parlé de la stratégie des Verts. Est-ce que, d'après toi, les Verts ont eu raison d'éliminer Luana?
Je pense vraiment que l'élimination de Luana, c'est pas juste une élimination en mode on veut conserver les alliés Fouzi et Géraldine. Il est évident que l'élimination de Luana était aussi une élimination en mode on élimine Maxime, certes, mais on élimine aussi quelqu'un de fort à côté pour la suite du jeu. Et on va le voir à travers les épreuves, mais il est évident que ça favorise vachement le jeu de Ambre, qui peut plus facilement remporter des épreuves dans le cadre... Forcément, on enlève du coup une personne féminine, donc on peut prendre l'avantage dans le cadre de ces épreuves. Surtout que Luana nous avait montré durant ses performances qu'elle était pas mal forte justement sur ces épreuves.
Et aussi une autre scène qui était sympa, c'est-à-dire qu'on voit d'un côté Luana qui dit de son côté bah, que en gros pour elle ça dépasse le jeu, que c'est une tradition qui est une tradition n'importe quoi, une trahison qui lui fait beaucoup de mal. Et de l'autre côté, bah, du coup, on retourne sur le camp et on voit Ambre qui dit justement que ça lui a fait du mal aussi de devoir mentir les yeux dans les yeux à Luana. Abra, toi, je voulais te demander, est-ce que ça présage peut-être le fait qu'ils essaient de la protéger un petit peu au montage, c'est-à-dire vraiment d'avoir les deux sons de cloche et d'avoir la justification d'Ambre, parce que parfois, quand les gens ils vont éliminer comme ça, ils vont trahir quelqu'un, on n'a pas forcément, on va tout de suite se focaliser sur les sentiments du trahi, et la personne qui trahit, on n'écoute pas forcément son cloche.
Je ne sais pas si c'est vraiment la préserver, parce que si c'était présenté déjà avant et assumé, parce qu'en soi, le move est beau, c'est Noshi le disait, c'est que virer Luana sous couvert de virer Maxime, c'est beaucoup plus intéressant et bien joué que de virer Géraldine et Fouzi. qui ne font pas peur sur une épreuve, qui sont finalement des goths que tu emmènes, qui ne sont pas démarqués dans le jeu, alors que Luana, c'est une rivale à la victoire finale. Le problème, c'est que si c'était assumé, on pourrait applaudir Ambre de l'avoir fait. Mais dans ses justifications, ah, bah, ça me fait mal la trahison, et après, comme on le voit plus tard dans l'épisode sur la manière d'envoyer JC à l'épreuve éliminatoire, enfin, franchement, moi j'applaudis le jeu s'il a assumé. Et là, j'ai du mal. Je sais pas si c'est préservé, c'est mal fait. Ça pourrait être mieux préservé.
Et puis aussi, donc, petit truc, c'est on a vu une scène où Pauline pleure en disant qu'elle comprenait pas toutes ses stratégies. Bon, voilà quoi. Elle avait l'air d'être aussi perdue dans le jeu qu'en dehors. Donc, ouais, c'est une petite erreur de casting. Bon, c'est pas grave. Et du coup, je vais passer à l'épreuve de confort. Alors, épreuve de confort, qui est une épreuve classique, qui, avant la légende, on l'avait pas vue pendant longtemps. Parce que c'est une épreuve qu'on voyait aussi dans Survivor à la fin des années 2000, qui avait été réadaptée dans Koh-Lanta. C'est l'épreuve de la grille sur l'eau, où les gens doivent un peu. La grille baisse et les gens doivent retenir leur respiration le plus longtemps possible. Et avec un twist intéressant, avec le totem maudit. Et ça, Emma, pour une fois qu'il y a un bon twist du totem maudit, on va pas s'en plaindre.
Ah bah oui, c'est sûr, pour le coup, assez surprise d'avoir un moment aussi intéressant de l'épisode qui vient aussi tôt, parce que d'habitude on attend 22h30 et les discussions d'avant-conseil pour se réveiller un peu et se dire ah là c'est le moment, il se passe quelque chose, va falloir être un peu attentif. Et là d'un coup, on a un twist qui vaut le coup, qui est de... Les gagnants choisissent ceux qui vont participer à l'épreuve éliminatoire, donc c'est bien ça dont tu parles, hein, Damien?
Complètement.
Très bien. Et donc ouais, bah ravi. Ravi aussi parce qu'on laisse pas tout au hasard et on force les gagnants à bah forcément à sortir leurs alliances, à montrer qui ils veulent protéger à tout prix, qui ils pourraient laisser un peu plus derrière. Et à chaque fois qu'on force les gens un peu à sortir de leur dynamique assez facile, de dire oh, on vote au mérite, nanani, de montrer un peu. Bah, évidemment, les couleurs pour qui roule, forcément, ça remet un coup d'accélérateur au jeu, ça remet du piment, et on est content ici, donc on va pas s'en plaindre, en effet, et franchement, nickel pour ce twist. Bravo à LP. Voilà, je
Pour une
croyais
fois
pas
qu'on
le
se
dire un jour, mais bravo à LP.
Et un truc intéressant aussi, c'est que là, pour le coup, le vainqueur du confort est directement immunisé. Nochi, toi, genre, c'est ça que c'est quand même assez particulier.
C'est particulier. Après, j'ai l'impression que soudainement, LP s'est dit, tiens, on a plein d'avantages qu'on pourrait donner. On a un twist, le totem. Tiens, venez, on joue un peu avec. Donc, ils ont donné plein de trucs soudainement. Je me dis que ça peut créer vraiment un prochain conseil assez intéressant dans le sens où on aura à la fois le retour du coup des deux gagnants de l'épreuve éliminatoire qui peuvent potentiellement tourner. On aura en plus de ça une amulette pour le vainqueur. En plus de ça, on aura le vainqueur de l'immunité. Peut-être que si c'est Bastien qui remporte l'immunité, il pourra passer son amulette à quelqu'un. En plus de ça, on aura potentiellement l'avantage qui a été teasé en fin d'épisode. Genre, ça va donner un conseil qui va être totalement relancé. Ça peut créer pas mal de suspense et je pense que c'est une des bonnes manières de créer du spectacle au sein de Koh-Lanta, c'est justement de profiter de tous ces avantages pour bah, créer une nouvelle dynamique, créer de nouvelles dynamiques. Et, parce que c'est vrai que pour le moment, on s'endormait pas mal durant la saison. Et enfin, avoir des dynamiques, c'est ça qui nous intéresse.
Toi aussi, Abra, ton avis un peu là-dessus?
Alors, le twist est très bon. J'apporterai juste une nuance, moi, sur l'épreuve, enfin, qualifier quelqu'un en épreuve éliminatoire sur cette épreuve de l'échelle. J'aime bien cette épreuve. Mais sur une épreuve d'apnée, potentiellement jouer ta place, je trouve ça un petit peu. Enfin, c'est une épreuve qui peut être dangereuse, dans le coup, notre débat. Après, par contre, oui, que ce soit bien amené de pouvoir mettre enfin du pouvoir de décision. Déjà, une épreuve éliminatoire à 3, une espèce de duel mexicain qui en plus qui a été tendu, on verra plus tard. Mais surtout l'amener en choisissant qui va y participer, deux personnes, donc mettre une cible te mettre une cible potentiellement par quelqu'un, c'est ouais, bravo, bravo, c'est bien de l'amener, ça incite les gens à strat, un peu, à pouvoir voir que leurs relations sociales bah, ont de l'importance tout au long du jeu, et que c'est pas forcément le sacro-saint mérite, enfin si dans les choix il peut jouer, mais que n'importe quel moment, ça peut se retourner contre toi.
Qu'est-ce que t'appelles un duel mexicain exactement?
À trois, façon bon la brute et le truand.
Ah d'accord, parce que c'est la première fois que j'ai entendu cette expression-là, donc du coup c'est pour ça que je voulais te faire préciser. Tu voulais dire quelque chose, Emma?
Ouais, non, je voulais juste rebondir sur ce que tu disais, Abra, par rapport au fait de sanctionner la dernière place, notamment sur une épreuve d'apnée. Moi, déjà, ça me paraît bizarre de sanctionner une dernière place sur une épreuve où le dernier, c'est celui qui abandonne en premier. De lui mettre un vote supplémentaire ou je sais pas quoi, d'accord, mais d'avoir une sanction aussi lourde, normalement, c'est on garde des épreuves où c'est les deux derniers qui se disputent pour garder un suspense maximal jusqu'à la fin. Du coup, là, j'ai pas trop compris en fait le but. Et surtout, ouais, comme tu disais, bah, ça peut être, je sais pas, ça peut être limite dangereux. Bon, là, ça a pas été le cas, mais de quelqu'un qui va un peu trop au-delà de ses limites pour pas être dernier. Je sais pas, enfin moi ça me paraissait un peu étrange. Après c'est pas de l'apnée à 100% et Olga a abandonné bien avant qu'il se retrouve submergé dans l'eau, mais ouais, un peu surprise, un peu bizarre ce totem maudit à ce moment-là.
Ouais, je crois
douteux, ouais. Mais bon, il y a pas eu de problème, donc on est très content. Mais voilà, juste un peu douteux en effet.
Après ce que j'aime beaucoup avec l'arrivée de ce totem maudit sur cette épreuve-là, c'est que contrairement à d'autres épreuves comme des épreuves statiques ou autres, au moins là, c'est une épreuve où tout le monde peut rater son coup. Les épreuves d'apnée, surtout l'épreuve d'apnée avec la fameuse grille, c'est des épreuves qui ont où si tu même les meilleurs peuvent foirer leur coup. Il suffit qu'il y ait une vague au mauvais moment, une mauvaise respiration, tu peux totalement rater ton coup. Et du coup, c'est vrai que là, pour le coup, c'était pour une fois une épreuve où même le meilleur peut rater totalement son coup. Et d'ailleurs, on l'a vu avec Olga, au final, je pense vraiment qu'elle a raté sa respiration parce que sortir aussi tôt, c'est presque surprenant, en tout cas, vu sa morphologie et vu sa détermination.
Bah, tu bois une tasse, c'est rattrapable.
Ah oui, c'est pour ça.
C'est pas comme un cochon pendu, à la limite, où tu perds un peu l'équilibre, tu peux essayer de te rattraper. Et c'est là, tu bois une tasse, c'est fini.
Ouais, d'ailleurs, ouais, donc, comme vous l'avez dit, Olga, qui se retrouve du coup la première à faire cette fameuse épreuve éliminatoire. Et on a aussi un joli duel, et Bastien qui fait des apnées incroyables et qui remporte cette épreuve et qui choisit Ambre. Et du coup, Bastien, ah non, Ambre... Pardon,
c'est pas Bastien qui choisit Ambre, c'est Bastien qui finit premier et Ambre qui finit deuxième, et les deux du coup finissent en première position.
D'accord.
Les deux premiers qui gagnent. Ouais.
Voilà, c'est ça.
Donc les deux premiers qui gagnent, merci Nochi en tout cas. Donc les deux premiers qui gagnent, donc Bastien et Ambre qui avaient déjà remporté un confort tous les deux. C'est un bon petit duo ça, je sais pas ce que vous en pensez vous, tiens Nochi.
Bah, on les a déjà vus ensemble lors du précédent épisode, on les revoit encore ensemble, ça va créer peut-être des liens entre les deux, peut-être des liens stratégiques même, donc moi c'est même pas le fait que c'est un beau petit duo, c'est que je me dis qu'il y a possibilité d'avoir des nouveaux liens stratégiques, et ça c'est bien, pour la suite du lien en tout cas.
Tu vois peut-être Bastien essayer de faire des liens stratégiques?
Bah, plus tard dans l'épisode, on apprend que Bastien ne semble plus trop en alliance avec Olga. Donc forcément, c'est qu'il y a eu un rapprochement avec les rouges. Et donc, on va pas se cacher que c'est le fait d'être très souvent entouré de rouges, que ça soit durant l'épreuve de l'arc, puis durant son confort avec Ambre. C'est évident que ça a dû créer des rapprochements.
Après, c'est vrai que Bastien, déjà, quand ils étaient chez les jaunes, certes, ils viennent tous les deux des jaunes, mais Bastien vient des ex-violets et Olga des ex-bleus, et ils n'avaient jamais été très proches de ce que j'avais eu l'impression chez les jaunes. Mais par contre, oui, c'est clair que je pense que le duo avec Ambre pendant deux conforts d'affilée a fait que Bastien a complètement abandonné les ex-jaunes et... peut-être pas, il n'est peut-être pas devenu ex-rouge, mais en tout cas, il adopte un peu la stratégie et il souhaitait que Olga soit éliminée à l'épreuve éliminatoire. Donc, c'est hyper intéressant et c'est là où je pense que ça peut aider Ambre aussi pour la suite, pour avoir les chiffres et la majorité. Et c'est un duo un peu bicolore qui est intéressant à suivre quand même, autant au niveau de la stratégie. Qu'au niveau du divertissement, bon, c'est pas du high level, mais au moins ils sont assez divertissants, ils sont marrants, ils sont mignons, et ça fait plaisir à voir. Donc sympa comme duo, comme moment.
Alors donc en fait, c'était à Bastien et à Ombre de choisir qui allait affronter Olga lors de l'épreuve éliminatoire. Et alors, chose surprenante de la part de Bastien, parce qu'on voit Ambre qui choisit Jean-Charles, qui a beaucoup de mal à choisir, mais ouais, elle dit que c'est par rapport à ses preuves, tout ça, donc peut-être qu'après l'élimination de Luana, elle voulait peut-être pas trop se mouiller. Mais alors, Bastien qui choisit Fouzi, ça, c'était peut-être un petit peu plus inattendu. Comment, toi, Abraxas, comment tu t'analyses ce choix, toi?
Bon, alors, venant de Bastien, c'est plus inattendu parce qu'il aurait pu aller un petit peu plus parler sur Géraldine qui a l'air un peu plus effacée. Enfin, on ne sait même pas. Géraldine a sûrement plus d'importance qu'on veut nous le montrer. Mais au moins, c'était le premier à choisir en plus. Donc, c'était osé. Sachant que Fouzi, c'est un petit peu les yeux de François, c'était osé de le mettre là. Après, par contre, je suis vraiment déçu là pour le coup. Et c'est à partir de ce moment-là où je peux pas dire que Ambre peut être une joueuse de l'épisode. Cette justification pour envoyer Jean-Charles, genre je fais ça pour ton bien. Enfin, on a vu mieux quoi. C'est non assumé encore. Bah, c'est du jeu. Ça reste dans la continuité de ce qu'on disait au début d'épisode sur Luana, sur l'élimination de Luana. C'est pas assumé. C'est au bout d'un moment, bah oui, essayer de mettre quelqu'un qui je vois même pas l'intérêt, enfin, qui peut sortir parce que tu sais qu'un de tes alliés, tu veux pas le faire sortir, tu le justifies et trouves une autre manière que de dire c'est pour ton bien. C'est pas, enfin.
Et puis en quoi ce serait pour son bien, quoi?
Bah, c'est encore s'ils avaient une dimension de jeu, à dire comme on aurait pu le voir dans certaines saisons, par exemple de Survivor, d'aller dire bah tiens, je prends un risque pour aller gagner un avantage. Parce que s'ils avaient cette vision du jeu de dire bah tiens, derrière, il peut aller gagner un avantage chez mon allié, il peut gagner l'épreuve, on va le récupérer ensemble. Si c'était réfléchi comme ça encore, oui, mais là, enfin non, il n'y a rien à gagner en soi dans les faits, et personne, même nous, on est surpris qu'éventuellement il y aurait quelque chose à gagner si tu as survécu à cette épreuve éliminatoire.
Ouais, puis je pense qu'il y a un peu de la dissonance cognitive chez Ambre dans le sens où elle maintient sa version, même en confesse, de dire « Ah, c'était pour son bien », je l'ai fait parce que je voulais qu'il se bouge, parce qu'il en avait marre d'aller au conseil, je sais pas quoi. Et après, elle dit à Géraldine, ah, il n'y avait aucune stratégie, machin. Et puis ensuite, elle va dire, ah, mais du coup, moi, je veux surtout pas voir Nicolas et surtout pas voir François sortir. Mais en fait, Ambre, à partir de ce moment-là, enfin, ça, c'est de la stratégie déjà, de pas vouloir voir tes alliés sortir, c'est de la stratégie, c'est tes alliés. Et du coup, c'est un peu la division entre les deux. Et où j'ai l'impression qu'ils se rendent pas trop compte que avoir des alliés et ne pas vouloir que certaines personnes sortent, bah en fait c'est ça la stratégie. Enfin, et le fait de dissocier les deux, de dire c'est pas du tout par stratégie, bah en fait si, c'est par stratégie. Et tu peux le dire, tu peux dire bah voilà, je me vois pas éliminer Nicolas, je me vois pas François, donc je suis désolée, j'y sais, c'est sur toi que ça tombe. Je pense qu'il l'aurait mieux pris, même si tu révèles un peu ton alliance, elle est déjà quand même pas mal sortie au conseil. Donc ça aurait évité, je pense, un peu de la future colère de JC. Mais bon, je sais pas s'ils vont jusque-là, quoi.
Du coup, on va passer au post-confort. Donc ils ont un confort où ils ont nagé avec une séquence un petit peu National Geographic, on sait, à chaque fois. Donc où il y avait des tortues bleues, ils les ont mis dans l'eau, tout ça. C'était un petit moment d'évasion sympathique, donc avec un bon repas. Et lors du post-confort, et on voit enfin Fouzi et Jean-Charles qui ont été, qui ont été désignés et qui se réveillent en disant « Ah ben merde, il y a une alliance verte, dis donc, il n'y a pas qu'une alliance rouge, il y a une alliance verte. » Et du coup, moi, ce que je veux vous demander, c'est pourquoi ça leur a pris aussi longtemps?
Mais ça a pris aussi longtemps parce que Alliance Rouge, en fait, ça le problème, c'est que ils sont trop restés focus, les yeux bien bas sur l'Alliance Rouge, en mode on ne voit rien d'autre que ça, et en fait ça n'a pas été vu assez tôt. Et maintenant, du coup, ça fait beaucoup. Du coup, on peut revoir l'épisode précédent en se disant c'est dommage que ils aient pas vu ça plus tôt, parce que ils auraient pu éliminer Nicolas, Jean-Charles durant les binômes si Fouzi et Géraldine avaient suivi Maxime, et en ne faisant pas ça, du coup il s'élimine lui-même en quelque sorte, parce que du coup, ben, cette alliance rouge, en voulant croire à cette alliance rouge, et ben ils se font trahir par, au final, cette alliance verte encore derrière. C'est pas du karma, mais c'est presque beau narrativement de se dire qu'ils se sont fait avoir par l'Alliance Rouge à cause d'une autre alliance derrière.
Donc, je veux dire, de leur côté, c'est vrai que comme tu l'as dit, Noshi, c'est qu'il y avait d'un côté donc l'Alliance Rouge, effectivement, donc qui pouvait inclure les anciens verts, et du coup le fait de passer un petit peu à l'aise. Mais quand même, on se dit qu'il y a, je sais pas, il y a des petits trucs. Le fait que Nicolas, justement, se rallie un petit peu au vert, ça leur a pas mis la puce à l'oreille. Le fait que, je sais pas, que du coup, même il y a certains votes, même, parce que là, ça a été fait après l'épreuve de confort. Mais même avant ça, Fouzi et Jean-Charles s'étaient pas rendu compte que du coup, il y avait une influence verte et qu'ils n'étaient pas dedans. Enfin, je sais pas, j'ai du mal à comprendre ça. Et je sais pas, toi, Abra, c'est quoi ton sentiment vis-à-vis de ça?
Bah, c'est étonnant même parce qu'on les voit quand ils arrivent à la résidence, ils se rendaient même pas compte eux-mêmes de ce qui se passait sur le camp, ils l'apprennent par ceux qui sortent. Donc, enfin, c'est un manque de vision du jeu, c'est dommage.
Bah, comme je disais avant et comme je le redis maintenant, c'est, et d'ailleurs je suis d'accord avec Abraxas, je pense que je pense que les candidats avancent épisode après épisode, conseil après conseil, et ne réfléchissent pas assez à qu'est-ce qui va se passer dans 3 tours, ou du moins au moins dans 2 tours. Et du coup, ben, Fouzine n'a même pas réfléchi à ça, ne s'est pas dit, et ainsi que Jean-Charles ne se sont pas dit, tiens, mais qu'est-ce qui se passe si Rouge se fait éliminer, qu'est-ce qui se passe si on élimine Luana et si on élimine Maxime, qui se fait viser après? Et si ils avaient eu cette petite réflexion si Maxime, qui est notre canard noir qu'on vise en priorité, venait à se faire éjecter, qui serait visé? Et ben, ça serait vous. Et en fait, il suffisait juste de réfléchir un tour de plus et ils avaient en fait la piste. Mais malheureusement, ils ne réfléchissent pas assez loin. Et on l'avait déjà remarqué depuis longtemps que c'était pas assez réfléchi depuis pas mal de temps.
Bah, je pense qu'il y a vraiment une part de déni, honnêtement. Et on le voit bien de la part de Géraldine, qui est hyper contente d'avoir été sauvée, qui le dit à plein de reprises, et du coup qui est absolument pas dans la méfiance. Elle se sent vraiment en confiance, elle rassure Fouzi, etc. Du coup, ça donne un peu le ton en termes de vision à long terme, comme tu disais, Noshi. Et puis, il y a aussi le fait que je pense que François a vraiment maintenu ce truc de Alliance Rouge, on vote ensemble, etc., qui les a un peu confortés dans ce truc-là. Et ils se sont dit, bon, bah, pour l'instant, c'est facile, on reste là-dedans. C'était tellement facile pour eux d'éliminer des jaunes que tant qu'on est confortablement dans la majorité, on ne va pas trop se poser de questions. Et évidemment, quand ça commence à ressortir, quand le quatuor vert commence à se mettre en avant, ça se pose des questions, mais c'est évidemment déjà trop tard. Et encore une fois, c'est dommage parce que ils auraient pu éviter ça, mais toujours c'est Koh-Lanta et c'est vrai qu'on a du mal à briser les histoires de majorité, on a du mal à aller contre sa majorité de départ, sa famille, sa couleur, etc. Et ça reste un problème un peu structurel du jeu. Mais c'est vrai que là, il y a quand même une bonne grosse part de déni, je pense, notamment chez Géraldine. Et je pense que le revers de bâton va être assez tendu pour elle, peut-être. Je lui souhaite pas, mais j'ai un peu peur de ça. Et ouais, non, pour Fouzi, il a été déjà assez rapide, quoi.
Et d'ailleurs, ouais, c'est vrai que Géraldine qu'on voit quand même très peu, c'est vrai, au montage, mais qui quand même avance bien. C'est qu'on a du mal à voir quels sont un peu ses rapports avec les gens. On sait qu'elle est un petit peu proche de Fouzi, mais sinon, on voit pas grand-chose. Et quelle position elle a dans l'équipe rouge, d'après vous, justement, à travers les maigres indices qu'on peut avoir? Est-ce que vous pensez qu'elle est bien placée?
Géraldine, elle a un excellent social, honnêtement. Ça se ressent, le fait que les gens aient voulu la sauver en particulier, et qu'elle a l'air quand même plutôt bien placée à la fois chez les ex-jaunes et puis chez les ex-rouges. Donc je pense que Géraldine a beaucoup misé sur son social. Je pense que, et c'était assez émouvant de l'avoir en confesse, là je trouve qu'on l'a quand même plus vu cet épisode que les épisodes d'avant, donc ça nous indique peut-être qu'elle va monter un peu en puissance petit à petit, ou pas, mais voilà. Mais ouais, elle avait l'air elle-même surprise d'avoir ce social et d'avoir cette place-là dans l'équipe. Et c'est vrai que si elle est venue là en tant que maman qui veut se prouver des choses, etc., moi, l'impression que ça me fait, c'est qu'elle redécouvre un peu qu'elle peut être quelqu'un à part entière, quelqu'un qui crée des liens, qui noue des amitiés. Et enfin, moi, je trouve ça hyper émouvant de la voir comme ça, se redécouvrir son individualité. Enfin, peut-être je vais un peu loin dans le truc, mais c'est vraiment comme ça que je l'ai vu. Et je trouve ça super pour elle, et vraiment, je trouve ça super chouette qu'elle arrive jusque-là, soit aussi bien intégrée dans l'équipe que voilà, parce que souvent c'est le genre de profil maman un peu plus âgée, même si bon, elle a à peine 40 ans, qui s'en va assez rapidement du jeu, qui se fait assez rapidement éliminer. Et là, non, au contraire, et moi je trouve que c'est un parcours de jeu qui est quand même assez intéressant et assez émouvant. Donc voilà.
Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi, mais je suis frustré de pas en voir plus, justement, que ce soit pas plus mis en valeur que ce profil de joueur, justement, enfin de joueuse très qui mise vraiment sur son social, qui a conscience que bah c'est pas une bête d'épreuve qui va battre des records, qui sera pas la mise en valeur par Denis à tout bout de champ, et tant mieux, qui va faire son petit bonhomme de chemin et qui sait le faire correctement en ayant les bonnes connexions. Et j'aimerais que ce soit mis en valeur, qu'on le voit. Parce que le problème, c'est que tout ce que tu as vu, je l'entends par ton ressenti, mais je le vois pas assez à l'écran. C'est dommage.
Et en vrai, ça pourrait être même plus intéressant de voir vraiment sa position, réellement savoir quelle est sa position, parce que c'est vrai que on la voit pas énormément. Là, c'est vrai que depuis 4-5 épisodes, on la voit de plus en plus. D'ailleurs, à l'épreuve, on la voit taper lorsqu'elle se fait éliminer en troisième position, ça reste une très bonne place. On voit que la prod essaie de rajouter des petits moments où on la voit, et au final, on n'a toujours aucune information sur elle, on sait juste qu'elle avance, et un peu à l'image de Flavio durant Les Âmes Secrètes. C'est quelqu'un qui avance, mais dont on ne connaît absolument rien de sa position. Elle est certainement un bon social, comme Flavio aux Armes Secrètes, mais on n'a rien. Elle avance, voilà.
Ouais. Et elle a visiblement la confiance de quasiment tout le monde. Et ça se gagne. Il serait intéressant de savoir comment elle la gagne, quoi.
C'est vrai que c'est dommage que du coup on nous montre quand même pas grand-chose vis-à-vis de ça. Donc, en général, on se dit que c'est quand un arc narratif ne va nulle part, c'est que la personne se fait éliminer ou sur collier ou lors des binômes, bon là ils sont passés, ou alors sur une épreuve éliminatoire. Là, ouais, c'est quand même bizarre qu'on la voit pas, et c'est dommage parce qu'on pense que ça pourrait nous donner pas mal d'indications assez, assez intéressantes. Et du
Elle n'a pas
coup,
reçu de vote contre elle, ouais.
oui, exact.
Aucun.
Et
Également, oui.
ça, déjà, je pense que c'est assez parlant, mine de rien. Est-ce que, avant de passer à l'épreuve éliminatoire à proprement parler, vous avez des choses à rajouter sur les phases de ce qu'il y a eu après le confort?
Ah, moi, je pourrais rajouter un truc, c'est que je trouve très bien que la production ait, durant le confort de Ambre et Bastien, mis une petite phase où on les voyait discuter stratégie les uns avec les autres. Parce que c'est vrai que les conforts sur cette saison, je trouve, sont très très longs. Et quand il y a deux personnes qui sont les unes avec les autres, c'est bête de ne pas prendre juste quelques secondes pour nous montrer peut-être une discussion, même un tout petit peu stratégique, mais ne serait-ce que juste avoir leur pour ressenti sur les choix qu'ils ont faits. Et là, ils ont eu l'intelligence, la production, de mettre dans le montage une toute petite discussion entre eux où ils discutent de leur choix, pourquoi ils ont fait ce choix et tout. Et je trouve que c'est tout de suite plus intéressant, et ça permet d'avoir un élément en plus, une petite information en plus sur leur stratégie.
Alors du coup, on passe à l'épreuve éliminatoire, donc sur la plage, donc la même plage d'ailleurs pour les super fans où il y avait eu les ambassadeurs de Koh Lanta Palawan en 2007. C'est exactement la même plage. Il y a plusieurs personnes sur Internet qui l'ont relevé. Et en fait, c'est l'épreuve, une épreuve éliminatoire comme il y en a beaucoup, c'est-à-dire, c'est ça qui avait éliminé notamment Mathieu, je crois, lors des Armes Secrètes, c'est-à-dire avec où il y a une espèce de poutre sur laquelle tenir en équilibre, et il faut mettre un socle, une boule, un socle, une boule, un socle, une boule. Et ça, au début, bah, on voit d'un côté Fouzi qui trempe de partout, Jean-Charles qui est un peu pâteau, et alors Olga, qui vraiment, tout en maîtrise, en subtilité, en minutie, qui arrive à gagner, limite, haut la main. Et ça, voilà, Olga, pareil, est-ce que vous étiez content, justement, de sa victoire?
Oui, bah, ravi. Ça, en plus, bon, c'était une épreuve, je pense, que t'es plutôt pour elle, de ce qu'elle a montré depuis le début du jeu. De l'équilibre, de la patience, de la minutie. Bon, c'est vrai que je me faisais pas trop de soucis, moi, avant, pour elle. Je suis content qu'elle soit sortie. Je suis content que la finalité soit un possible avantage et une possible nouvelle alliance avec JC. Mais non, ravi de la victoire d'Olga.
Et d'ailleurs, ouais, c'est vrai que même au montage, Olga a un edit qui est quand même plutôt positif. On se dit que c'est peut-être une des dernières jaunes. Est-ce que tu penses, Emma, toi, qu'elle a peut-être elle peut tirer son épingle du jeu avec les joueurs restants?
Ouais, carrément. Carrément, parce que pour le coup, autant Yannick, Anne-Sophie étaient vraiment perçus comme des ex-jaunes, autant Olga, je trouve qu'elle a vraiment fait son petit chemin. Elle s'est nouée avec, notamment avec Géraldine, on l'a vu. J'ai l'impression qu'elle fait un peu oublier comme Bastien d'une autre manière, mais elle fait un peu oublier qu'elle est une ex-jaune. Et là, on est un peu à un point charnière du jeu où l'alliance des ex-rouges est un peu en train de voler en éclats. Et du coup, je pense qu'elle a vraiment sa carte à jouer. Et pour le coup, vu le montage qu'elle a, vu la précision qu'elle a dans certaines épreuves, sa bonhomie, son social, je la vois vraiment bien aller loin, Olga. Et pour le coup, je la vois vraiment bien se sortir de cette dichotomie jaune-rouge et arriver à en faire quelque chose de chouette et arriver au moins en orientation, je pense. Donc vraiment, Olga, moi, je la suis énormément. Avec le départ de tous les ex-jaunes en cascade, c'est un peu la seule que j'aime beaucoup suivre sur la fin de cette saison. Donc ouais, Olga, vraiment, on attend beaucoup d'elle. Enfin, en tout cas, moi.
En fait, ce que j'aime énormément avec l'histoire d'Olga, c'est que déjà elle est très présente dans l'histoire de cette saison. C'est-à-dire que elle a perdu son allié Colin, son allié Alexandra. Elle ensuite à la réunification, elle veut un désir de vengeance, mais au final ça marche pas et elle perd ses alliés Yannick, ses alliés Anne-Sophie se retrouve en seule jaune. Et là, on la voit à nouveau en difficulté avec cette épreuve et elle s'en sort et elle est repartie pour avoir de nouveaux alliés. Vraiment, je trouve que elle a l'une des meilleures histoires de cette saison. Et du coup, ça fait plaisir de l'avoir continué cette histoire, de l'avoir continué à se battre. Et comme le dit Emma, potentiellement cette alliance avec Jean-Charles, ça serait vraiment formidable de l'avoir poursuivre, voire peut-être d'atteindre le quatuor ou le quintuplé final. Ça serait très joli pour ne serait-ce que conclure cette histoire, une histoire où elle a eu et quand même. Elle a été pas mal en difficulté quand même.
Et pour continuer sur l'épreuve, donc on voit Fouzi qui galère, on voit Jean-Charles qui galère, où les deux vraiment, c'est ça, et des chutes, et des chutes, et des chutes. Et au final, c'est Jean-Charles qui gagne. Et c'est Fouzi qui pourtant avait encore sorti une phrase à la con du style « J'ai la ruse du singe, j'ai la force du taureau et j'ai le cœur du lion », bah ça, tout ça lui a servi à rien, puisque du coup, il se fait éliminer sans panache lors de cette épreuve. Alors, donc je vais vous demander à tous les trois, donc à tour de rôle, on va commencer, je pense, par Emma. Pouzi, vous en garderez quel souvenir?
Et bah voilà, tu peux passer à quelqu'un d'autre. Non mais ouais, Fouzi, bah voilà quoi, Fouzi qui a toujours des mots plus grandiloquents les uns que les autres pour parler de lui, mais qui au final un peu pétard mouillé quand même, ou à part dire des la palissade un peu pété sur la vie. On n'a pas vu grand-chose de lui, honnêtement, en tout cas comme personnage dans ce jeu. Après, évidemment, il y a le montage et tout ça, mais j'avoue que j'en garderai pas un souvenir fou. Un souvenir fou, zi. Je suis fatiguée, excusez-moi. Voilà, donc vraiment, je vais m'arrêter là sur Fouzi, parce que sinon, je vais encore dire des bêtises.
Moi, j'attendais beaucoup de Fouzi, parce que je trouve qu'en début de. Quand on voyait son portrait, en début de saison, je trouvais que j'avais l'impression qu'il avait un profil de joueur qui était venu pour tenter de se dépasser et tout, qui a envie de prouver des choses à ses proches. Je trouve que c'était un profil qui était plutôt fun et plutôt intéressant à suivre. Et au final, la saison a montré, c'est qu'on ne retient pas grand-chose de lui. Il n'est pas très bon en épreuve, et comme dans Koh-Lanta, on met beaucoup en avant l'épreuve, bah forcément, déjà, c'est en dessous. On ne l'a pas vu trop en stratégie, il a fait que suivre la stratégie des rouges, donc il a rien créé, en fait, il a rien créé de lui-même. Et donc, au final, il sort sur une épreuve éliminatoire. Je n'ai pas envie de dire que c'était presque attendu, mais je trouve que c'est la sortie qui presque le décrivait le mieux, c'est-à-dire que il n'a pas rien tenté, et du coup, ben, l'émission l'élimine de la manière la plus triste et sans âme possible, en fait.
Bah ouais, le Mbappé de la finance, au final, il a toujours mis à côté et il l'a pas mis au fond des filets et il a même pas la prolongation du contrat à la fin. Bah, c'est pas hyper glorieux, mis à part deux trois enfin deux trois interventions où justement pour parler de lui, pour se mettre en valeur. Au niveau du jeu, on n'a pas vu grand-chose, on n'a pas Ouais, ça a été finalement le fusible de François et consorts pendant toute sa partie, et il aura que ça à faire de son jeu. Par contre, plus que l'élimination de Fusée Fousy, je me suis En fait, j'ai plus, je me suis réjoui de la victoire de JC qui se chose, qui se sauve.
Bah justement, ouais, tu me lances parce que j'allais parler de ça, justement, le fait que Jean-Charles se sauve. On l'a vu quand même très à la peine sur les épreuves, on a l'impression qu'il avait traversé cette réunification un peu comme un fantôme. On voyait bon, qu'il était là, qu'il était souriant, mais qu'il faisait pas grand-chose. Et là, il se sauve, et en gros, dans le teaser de la semaine prochaine, on le voit peut-être remuer un petit peu, essayer de remuer un petit peu les choses. Jean-Charles, d'après vous, quelle est sa place maintenant dans le jeu, et est-ce qu'il peut encore faire de belles choses, notamment avec Olga?
Moi, ce que j'aime beaucoup avec Jean-Charles, et d'ailleurs on en parlait dans un précédent podcast, ce que j'aime beaucoup avec Jean-Charles, c'est que c'est quelqu'un qui ne connaît pas trop le programme. Du coup, comme il ne connaît pas trop le programme, on l'a probablement pas trop vu faire de la stratégie depuis les débuts. On l'a vu beaucoup social, on l'a vu pas très bon en épreuve, mais il a moyen de briller en stratégie, je pense. Il a moyen de créer la surprise. Il faut se rendre compte qu'actuellement, on a une alliance verte qui est un peu en difficulté dans le sens où elle est dévoilée. En plus de ça, ils ne sont pas en majorité. Jean-Charles peut créer cette surprise avec son bulletin et en tournant contre les verts, ça pourrait vraiment retourner le jeu complètement. Et j'espère que Jean-Charles va retourner le jeu parce que je pense vraiment que ça créerait tellement de surprises pour cette suite d'aventures d'avoir un Jean-Charles qui décide de se rebeller en quelque sorte et d'enfin dire ok, j'existe dans le jeu, c'est l'heure, c'est mon heure en fait, c'est mon heure.
Ah, j'espère tellement que t'es raison, chic, ça se passe comme ça. Parce que moi, ouais, Jean-Charles, en plus, c'était un peu mon petit chouchou depuis le début, dans le sens dans les mecs quarantenaires qui passent, qui ont, tu vois, ils sont pas des monstres de musculature, des mecs qui font du sport tous les jours, qui sont habitués. Tu vois, le gars, en plus, et ce côté quand même un peu strat et social, un peu gauche. On se souvient
Tu
qu'au
t'identifies
début.
au dead body à bras?
Ouais, c'était ça. C'est tout à fait, en fait. Mais non, mais franchement, moi, ça. Parce que franchement, moi, j'irais m'inscrire. Alors, je ne le ferais pas, mais si je dois m'identifier, si vraiment je dois m'identifier, peut-être pas au niveau de son approche du jeu, mais au niveau de l'approche des épreuves, je sais très bien que je ne ferais pas des folies, tu vois, mais que j'essaierais de m'en sortir et de trouver mes forces autrement. Et finalement, c'était gauche, souvenez-vous, au début du jeu, où il a quand même parlé, il me semble, de pacte d'ange gardien avec Ambre. Et ça peut être aussi que ce choix. C'était avec Ambre, ou j'ai un doute, peut-être là, il faudra peut-être
T'es
me
avec
corriger.
Anne-Sophie.
T'es avec
Avec
Anne-Sophie.
Anne-Sophie. C'était avec Anne-Sophie, autant pour moi. Mais en tout cas, qui parlait, donc il y avait de l'idée. Il y avait une intention de jouer. Ça peut être gauche, ça peut être raté, mais si tu veux, tu peux pas. On peut pas blâmer les mauvaises intentions. Si
Mais
maintenant
après,
ça le réveille.
on est à l'épisode 13 et on revient encore sur cette séquence de l'épisode 1, minute
Oui,
3, où
mais
il propose ça à
après,
Anne-Sophie, donc...
on sait pas quand est-ce qu'il le montre, ce qu'il nous montre après, mais en tout cas, moi, j'ai toujours été mon petit chouchou depuis le début de la saison pour ça, celui que j'ai pas envie de sortir, tu vois, ça s'explique pas, c'est comme ça. Là-dessus, celui auquel tu t'attaches, j'aime bien le bonhomme, il est sympa, ça. Donc, vraiment, j'espère, oui, comme dit Yoshi, qu'il va retourner le jeu, qu'il va prendre une conscience, et puis même mettre du chaos. On lui demande pas de gagner, d'aller sur les poteaux, quoi que ce soit, mais s'il arrive à retourner la table, à nous virer du favori, à offrir des belles sorties et à montrer que bah ouais, tu peux jouer, t'as pas besoin en gros de gagner des épreuves aussi pour peser sur le jeu. Bah j'achète. Envoie du rêve, Jean-Charles.
Bah, comme Abraxas, moi j'aime. Enfin, dès le début, ça a été un de mes portraits préférés parce que c'est un de ceux qui sort le plus du lot. Et j'aime beaucoup le recul qu'il a sur le jeu, vu que c'est pas quelqu'un qui était à fond dans Koh-Lanta, c'est pas quelqu'un qui veut faire Koh-Lanta pour prouver quelque chose à sa famille, à lui-même, à je sais pas qui, à son ex. Et du coup, je trouve que son approche, enfin, je regrette qu'on l'ait pas plus vu. Et je sais pas, moi je l'aime bien, j'ai une tendresse pour lui. Après, il apporte pas énormément au jeu. Et il est un peu mou des fois, tu te dis, mais t'as envie de le prendre, le secouer et de dire Jean-Charles, stop. Ou alors, Jean-Charles, réveille-toi quoi. Mais ouais, moi je l'aime beaucoup. Et je trouve que la trajectoire du mec qui perd tout le temps en épreuve, qui est un peu mou, etc., et qui d'un coup va se prendre une épreuve éliminatoire, va s'en sortir et va peut-être essayer de retourner le jeu, de se réveiller un peu. Moi, je trouve ça super cool, super intéressant, super bien mis en scène. Et j'ai hâte de voir ce qu'il va nous faire à la suite. Alors, ça se trouve, on est en train de se monter la tête pour un truc qui va pas du tout aboutir et il va têche à la fin de l'épisode prochain. Mais au moins, je pense qu'il aura essayé et ce sera chouette à voir.
Et d'ailleurs, Olga et Jean-Charles à qui on donne un coffre. Alors, qu'est-ce qu'il y a dedans? Mystère. Et du coup, l'épisode se termine là-dessus avec on voit Jean-Charles qui essaie de mettre le chaos. Donc ça, on verra ça plutôt la semaine prochaine. Et du coup, avant de terminer, je voulais vous poser une question à tous les trois. Est-ce que vous avez apprécié cet épisode? Est-ce que vous avez apprécié surtout le twist un peu de cet épisode, c'est-à-dire cette épreuve éliminatoire?
Eh ben, j'ai passé une très bonne soirée, vraiment, l'épisode était très très bon. Et en fait, c'est presque paradoxal parce que je déteste les épisodes coupés en deux, je trouve que ça casse le rythme pas mal, mais là je trouve que le cut était au bon moment, on a eu beaucoup de choses et... S'ils n'avaient pas cut, s'ils n'avaient pas coupé cet épisode en deux au moment-là, on serait retrouvé avec une épreuve d'immunité, une partie stratégique et un conseil ultra serré, parce que on ne peut pas tout rentrer. Et là, avoir coupé, ça a permis de faire respirer l'épisode, ça a permis de voir un peu ce que ça pensait, ça permet de voir, d'avoir beaucoup plus de discussions. Et du coup, c'était un bon montage, et j'ai passé un très bon moment. Je trouve que c'était un très bon épisode, et j'ose espérer qu'ils auront tout autant de contenu pour la semaine prochaine, parce que sinon, par contre, on va se faire chier la semaine prochaine s'ils n'ont pas assez, par contre.
Ouais, comme Noshi, je n'aurais pas à dire mieux, à part que je rajouterais à faire un petit coucou à Bobinou, qui d'habitude, sur la pensant qu'un épisode cut ne pourrait pas... pourrait donner un mauvais à décider... De ne pas être là, et ben voilà, ça nous donne un très bon épisode sur un épisode cut, bravo. Bravo, qu'on lui laisse la semaine prochaine, qui promet à mon avis un peu moins de rebondissements, et en tout cas, très très, surtout une très belle épreuve aussi de confort, qui visuellement, même si elle est tirée en longueur, a été belle. Passe une très bonne soirée aussi.
Ouais, un peu pareil que ce qui a déjà été dit. J'ai trouvé ça chouette d'avoir un épisode qui coupe un peu avec le format qu'on a depuis la réunification de globalement 1h15 de « on se fait chier » et de 15 minutes de « oh mon dieu, il se passe 15 000 trucs et on comprend rien ». Ça faisait du bien d'avoir un épisode où il y avait plusieurs bons moments, un peu plus étiré sur le temps de l'épisode et en même temps l'épisode un peu moins long parce que c'est vrai qu'on a fini un tout petit peu avant 23h, d'habitude ça dure plutôt jusqu'à 23h10-15. Non, j'ai trouvé ça chouette. Pareil, ouais, un épisode coupé en deux, mais au final, c'est pas si dérangeant que ça. Donc, franchement, après, on se contente de pas grand-chose. Hein. Je sais pas s'il y a quelques années, on aurait tenu ce discours sur un épisode comme ça, mais voilà, vu ce à quoi on a déjà pu assister, j'ai trouvé ça très correct. Et j'ai vraiment... En fait, ça m'a donné hâte de voir la suite. Et c'est toujours bien. Voilà.
Moi, je vous rejoins aussi là-dessus. C'est vrai que on avait tellement été habitué avec le totem maudit à avoir des twists, enfin les mêmes twists que d'habitude, c'est-à-dire un vote de pénalité et tout, qu'on soupçonnait un petit peu de paresse. Là, il y avait une vraie idée qui a rythmé l'épisode. Et comme vous l'avez dit, même si cet épisode était coupé en deux, eh bien, on aurait eu de la surprise, on aurait eu du développement stratégique, on aurait eu une élimination à laquelle on s'attendait pas forcément, et du coup, voilà, j'ai passé moi aussi un très très bon moment, puis moi aussi, hâte de voir la semaine prochaine ce qui va en être. Voilà, du coup, ouais, je voulais vous remercier tous les trois d'avoir fait ce développement. Donc c'est un épisode un peu plus court que d'habitude, mais comme pour Koh-Lanta, donc c'est pas gênant. Donc merci en tout cas à vous, merci à toi Emma.
Merci Damien, merci à tout le monde de nous avoir écoutés, merci Abra, merci Noshi.
Merci Abra.
Merci Damien, merci Noshi, merci Emma, et merci à tout le monde. Et à très bientôt.
Et merci Noshi.
Merci pour toi, à toi Damien, pour nous avoir accompagnés, nous avoir guidés sur ce podcast. Et merci à Abra, merci à Emma. Comme ça, on s'est tous remerciés chacun mutuellement et on peut partir avec le sourire.
Voilà. Bienvenue à Noshi aussi dans notre équipe d'intervenants.
Et c'est vrai, voilà. C'est quelqu'un qui a passé le test avec beaucoup de brio, je dirais, du coup, qui fait partie de notre team d'intervenants maintenant. Donc, sois la bienvenue.
Merci.
Et puis quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour la fin de cet épisode, qui sera un peu l'épisode 14. On a l'impression que cette saison est très étirée sur la longueur.
C'est long, putain. Il reste un mois encore, mais ça a commencé mi-février.
Oui. Alors,
il neigeait quand ça a commencé, et là il fait 30 degrés, enfin c'est quoi ? Enfin bref.
Effectivement. Saison, ma bonne dame.
C'est pas ça, hein.
Du coup, c'était Damien, et puis je vous dis à la semaine prochaine, ciao.